Il est 19h et vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Entre 15 et 20% des étudiants se déclarent en difficulté ou en grande difficulté. Ils souffrent de l'isolement, manque de relations sociales. Et c'est un vrai problème. C'est une souffrance pour tout le monde.
L'étudiant qui s'est défenestré ce week-end à Lyon est toujours entre la vie et la mort. Les responsables de l'université pointent l'extrême précarité de ces étudiants. Précarité liée à la crise du Covid.
Lille vient de détecter les premiers cas de variants britanniques. Son voisin Roubaix organise depuis ce matin une vaste opération de dépistage. On sera sur place.
Des précisions sur la vaccination. On ne pourra pas s'inscrire sur l'application Tous Anti-Covid, mais on y trouvera les adresses des centres les plus proches de chez nous.
L'OMS va enfin pouvoir entamer sa visite en Chine, mais pas sûr que les experts aient accès aux informations qu'ils souhaitent, nous dira Didier François.
Aux États-Unis, la procédure d'impeachment contre Donald Trump est lancée. Les démocrates ont déposé l'acte d'accusation. Et puis, les victoires de la musique, on connaît les nommés. Benjamin Biolay, notamment, est présent dans trois catégories.
La météo avec Anissa qui n'est pas nommée, mais qui va nous annoncer un temps pluvieux, en tout cas humide. Pour demain, ma chère Anissa.
Oui, avec de nombreuses averses et le retour de la neige en pleine. Les températures, toujours bien froides le matin, connaissent une hausse sur la moitié nord demain après-midi. Tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et c'est un drame qui illustre donc l'isolement des étudiants contraints par la situation sanitaire de travailler seuls dans des conditions souvent difficiles.
Le jeune homme qui s'est défenestré ce week-end à l'Université de Lyon est toujours entre la vie et la mort. Il était étudiant en master de droit.
Et Jean-Luc Bougeon, c'est bien sûr le choc sur place.
Oui, effectivement, c'est le choc. Les étudiants ont réagi avec beaucoup d'émotion sur les réseaux sociaux. La présidence de l'Université Lyon 3 aussi, elle qui devait annoncer aujourd'hui un plan pour lutter contre la précarité étudiante. Car si l'on ignore encore les raisons précises qui ont poussé le jeune homme à une telle extrémité, tout le monde imagine que la situation très précaire des étudiants en ce moment a joué un rôle avec cette crise du Covid qui empêche les cours en présentiel, qui ne permet pas non plus les petits boulots alimentaires et qui pousse à l'isolement. C'est une période terrible pour les étudiants, estime Eric Carpano, président de l'Université Lyon 3.
Entre 15 et 20% des étudiants se déclarent en difficulté ou en grande difficulté. Ils souffrent de l'isolement, manque de relations sociales, difficulté de suivre les cours en distanciel. Et c'est un vrai problème. C'est une souffrance pour tout le monde. J'ai pas de réponse miracle, malheureusement. Si dans 15 jours, on est de nouveau confiné, on va être confronté de nouveau à cette situation et peut-être pire encore.
Voilà, vous entendez l'impuissance du président de Lyon 3. Alors, des mesures ont été annoncées quand même par le recteur de l'Académie de Lyon, notamment l'embauche de 2 ou 3 assistantes sociales supplémentaires, la mise en place de tuteurs ou d'étudiants référents dans les résidences du Crous. Mais cela apparaît bien dérisoire quand on sait que le campus lyonnais rassemble plus de 200 000 étudiants.
Jean-Luc Bougeon à Lyon pour Europe 1. À l'instant, la justice déboute la mairie Les Républicains de Cannes de son recours qu'elle avait intenté avec 3 autres municipalités contre le couvre-feu anticipé à 18h au lieu de 20h. Couvre-feu appliqué depuis le 1er janvier dans les Alpes-Maritimes et dont les élus dénonçaient les effets pervers.
2 nouveaux cas du variant anglais du coronavirus détectés cette fois. À Lille, Isabelle, ce variant sera-t-il responsable d'un nouveau confinement en France? C'est toute la question.
Un couvre-feu pour l'instant suffit, c'est ce qu'a dit en tout cas ce matin Jean Castex devant les présidents de groupes parlementaires, même si le Premier ministre n'exclut pas un nouveau confinement, mais en dernier recours.
Oui, un confinement, c'est ce que les autorités veulent évidemment éviter à tout prix.
Et pour cela, certaines communes optent quant à elles pour une campagne de vaccination à grande échelle. C'est le cas notamment de la ville de Roubaix, 6 centres de dépistage.
Principal enjeu, détecter la présence éventuelle de ce variant anglais. L'opération a débuté ce matin. Maximilien Carlier, quel bilan pour cette première journée?
Eh bien, écoutez, pas de chiffres pour l'instant sur le nombre de dépistés, mais ça a démarré progressivement, début de matinée, fin de journée du monde, oui. Mais entre midi et 14h, on a vu des infirmiers se tourner les pouces. Là où je me trouve, salle Ouattremer, il y a eu un flux continu de personnes. Parmi elles, Pascal, il attend son résultat.
Je suis à Roubaix pour quelques temps, moi j'arrive de Mayotte. Voilà, ça me rassurait un peu de venir ici faire les tests pour confirmer que je n'ai pas, quoi.
L'Agence régionale de santé espère tester 10% de la population, soit environ 10 000 habitants, d'ici la fin de la semaine. Mais pour beaucoup de Roubaisiens, le dépistage, c'est non.
Pour l'instant, je n'ai pas de symptômes.
Ça ne sert à rien. Je ne trouve pas l'intérêt. Le virus, il est là, il est là. On doit porter des masques, on porte des masques.
Pour cet habitant, les gestes barrières suffisent. D'autres m'ont expliqué qu'ils voulaient se faire vacciner plutôt que d'avoir un écouvillon dans le nez. Philippe Frogel, généticien au CHU de Lille, lance, lui, un appel à la population.
Moi, ce que je leur dis, c'est venez, parce que si vous ne faites rien, que ça se passe mal, on sait ce qui va se passer. Dans 10 jours, 15 jours, on aura le couvre-feu à 18h, qui est vraiment pas très amusant et ça pourrait être pire.
Et ce dépistage massif a également pour objectif de rappeler aux habitants les gestes barrières, car il y a 3 mois, en pleine seconde vague, Roubaix avait connu le taux d'incidence le plus élevé en France, 1135 cas positifs au Covid pour 100 000 habitants.
Maximilien Carlier à Roubaix pour Europe 1. Quant à la campagne de vaccination qui s'accélère, vous êtes nombreux à vous poser des questions. Où et quand pourra-t-on s'inscrire si l'on est volontaire?
Le secrétaire d'État au numérique, Cédric O, était l'invité d'Europe 1 à la mi-journée dans La France bouge. Il en a profité pour faire le point sur cette application Tous Anti-Covid.
Application qui finalement, Clément Le Saffre, ne permettra pas de prendre rendez-vous.
Oui, c'était pourtant ce qu'avait annoncé Olivier Véran la semaine dernière à une prise de rendez-vous par téléphone, sur Internet et via Tous Anti-Covid. Mais voilà, l'idée n'aboutira pas, comme l'a annoncé Cédric O sur notre antenne.
Vous ne pourrez probablement pas prendre directement rendez-vous dans Tous Anti-Covid pour plein de raisons techniques, mais sera disponible dès jeudi la liste des centres de vaccination à côté de chez vous. Évidemment, il y a une queue, une ordre de priorité, donc vous ne pourrez vous faire vacciner que si vous répondez à cette ordre de priorité.
On aura donc toutes les informations dans l'application pour se faire vacciner, mais ça n'ira pas plus loin pour le rendez-vous. Il faudra passer par Internet ou par téléphone. Par ailleurs, Cédric O a confirmé l'intégration dans Tous Anti-Covid lors de la réouverture des restaurants. On n'a pas encore de date, d'un QR code à scanner à l'entrée. Si un client est testé positif, tous ceux qui étaient dans l'établissement à la même heure que lui seront ainsi avertis par une notification. Ce sera obligatoire pour pouvoir entrer dans les établissements. Ce système restera quand même doublé par des cahiers de rappel traditionnels pour ceux qui n'ont pas de smartphone.
Une précision importante, signée Clément Le Saffre. Merci Clément. Et puis ça y est, le vaccin de Moderna est arrivé en France aujourd'hui. Les 50 000 premières doses qui vont être distribuées en priorité aux régions les plus touchées, le Grand Est, l'Auvergne-Rhône-Alpes et PACA.
Autre information, Pékin, ça y est, a finalement autorisé l'Organisation mondiale de la santé à venir enquêter en Chine sur les origines de l'épidémie. Une mission scientifique composée des 10 meilleurs experts mondiaux en matière d'épidémiologie et doit se rendre jeudi à Wuhan,
oui, une ville ultra sensible. Oh, c'est toujours dur à dire. On en parle avec notre spécialiste des questions internationales. C'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Les autorités chinoises ont donc entrouvert la porte, mais elles entendent contrôler de très près les activités de ces scientifiques.
Oui, c'est ça. Disons qu'ils ont enfin réussi à franchir le tout premier obstacle qui était en fait d'arriver jusqu'en Chine. Et ils sont encore très loin de leur objectif qui est de trouver les réponses scientifiques solides sur les origines du virus, sachant que du strict point de vue de l'enquête épidémiologique, ils ont quand même perdu un an, puisque c'est il y a 12 mois, jour pour jour, que les autorités de Pékin ont annoncé la mort, donc à Wuhan, du premier patient contaminé par la Covid. C'était le 11 janvier dernier. On ne connaît d'ailleurs toujours pas son identité. Mais entre-temps, la pandémie a fauché presque 2 millions de vies sur l'ensemble de la planète, sans que pour autant la bureaucratie communiste chinoise n'offre aux chercheurs un accès libre au foyer originel de la contamination. Bien au contraire, les représentants de Pékin à l'OMS ont négocié pied à pied toutes les conditions de séjour en Chine des 10 experts indépendants auxquels il est interdit de mener des investigations ou des prélèvements autonomes. Ils ne pourront travailler que sur les éléments que leur fourniront les scientifiques des structures officielles chinoises. Alors, ils les affirmeront, plus certainement les confirmeront, mais ils n'auront pas tout.
Mais qu'est-ce que la Chine cherche à cacher en réalité ?
Eh bien, effectivement, le problème, c'est que tout enquêteur de police judiciaire sait bien que pour avoir accès il faut avoir accès rapidement à une scène de crime pour en prélever les indices pertinents. C'est la même chose dans les recherches épidémiologiques. Donc, les obstacles qui sont dressés par la Chine au travail de l'OMS peuvent être considérés comme une stratégie qui vise à faire disparaître les indices et donc créer de la suspicion. Mais en fait, c'est parce que le Parti communiste chinois se moque royalement de la vérité scientifique. Ce qu'il veut, c'est contrôler absolument toute communication sur l'épidémie et surtout mettre en avant les succès obtenus dans sa lutte contre la propagation du virus. Donc toute tentative d'investigation indépendante sur les origines de cette maladie a toujours été réprimée de façon la plus brutale. Vous vous souvenez peut-être de ce médecin de Wuhan qui avait lancé l'alerte au tout début de l'épidémie et qui avait alors été arrêté pour circulation de fausses rumeurs. Pour dire si ça a circulé, la fausse rumeur. Eh bien, une autre lanceuse d'alerte vient d'être condamnée à 4 années de prison pour avoir mis en doute le nombre de morts dans les bilans officiels, qui est toujours de 4634 décès depuis la mi-mai. Pour une population d'un milliard et demi d'habitants, ça ne tient pas franchement debout, mais c'est la vérité du parti.
Merci à Didier Leil de Didier François. C'est tous les soirs dans le journal de 19h.
Europe 1. Julien Bugier.
Et vous restez avec nous, le journal continue dans quelques secondes. On s'intéressera au lancement de la procédure d'impeachment de Donald Trump.
Et puis de la musique. Allez, envers et contre tout.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Et on part désormais aux États-Unis où les choses s'accélèrent. Les démocrates viennent de présenter l'acte d'accusation contre Donald Trump.
Et on vous retrouve, Alexis Guilleux, vous êtes le correspondant d'Europe 1. C'est donc le début, Alexis, de la procédure d'impeachment.
Oui, l'acte d'accusation a été déposé ce matin à la Chambre des représentants. 4 pages dans lesquelles Donald Trump est accusé d'incitation à la violence contre le gouvernement des États-Unis. Le président a gravement mis en danger la sécurité du pays, de ses institutions et a menacé l'intégrité du système démocratique, dit le texte, qui revient sur le discours de Donald Trump devant ses partisans le 6 janvier. Le président avait répété avoir remporté la présidentielle et déclaré « si vous ne vous battez pas comme des diables, vous n'aurez plus de pays ». L'acte d'accusation souligne également les tentatives de Donald Trump pour renverser le résultat des élections et cite l'appel au secrétaire d'État de Géorgie pour trouver les milliers de voix manquantes. Deux sanctions sont demandées, la révocation de Donald Trump et la disqualification pour exercer tout futur mandat. La Chambre des représentants va voter cette semaine cet impeachment, mais des questions se posent pour la suite. Le procès au Sénat ne pourra pas se tenir avant le 20 janvier, c'est-à-dire le jour de l'investiture de Joe Biden. Les démocrates pourraient donc ne pas transmettre immédiatement l'acte d'accusation à la Chambre haute pour ne pas paralyser le début de mandat de Joe Biden par le procès de son prédécesseur.
Alexis Guillot, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
Et puis ça y est Isabelle, on connaît les nommés aux victoires de la musique.
Et oui, ce sera la 36e édition après une année évidemment dévastatrice pour le secteur de la musique. Alors la cérémonie se tiendra le 12 février dans un contexte forcément particulier, Angèle Châtelier.
Oui, d'ailleurs, à un mois de la cérémonie, rien n'est encore fixé sur la façon dont elle se déroulera. Le président des Victoires de la Musique, Romain Vivien, réfléchit à plusieurs alternatives.
On prendra probablement les décisions au dernier moment. On ne peut pas annoncer encore s'il y aura un public ou pas, mais ça semble malheureusement très compromis. Et puis, on est en train de travailler sur un protocole extrêmement strict. Imaginez de faire tester les gens, voire même d'en faire vacciner certains, et d'essayer de faire ça dans un cadre le plus... confortable pour les artistes et sécurisant pour tout le monde.
Et faute de concerts, en 2020, les catégories révélations scène et concerts de l'année sont supprimées. À la place, un changement pour les révélations qui se distinguent entre les hommes et les femmes. Parmi les nommés, on peut citer Iseult ou encore Hervé.
C'est énorme parce qu'il y a beaucoup de chanteurs. Il y a beaucoup qui chantent bien, beaucoup qui écrivent bien, qui produisent bien. Tout le monde est fier, la famille, tout le monde. Enfin voilà, ça a du sens.
Mais là, il s'agit des révélations. Comme chaque année, les gros vendeurs de disques sont aussi mis à l'honneur. Benjamin Biolay, nommé dans trois catégories. Julien Doré, Camélia Jordana. Et puis deux artistes qui reviennent après avoir gagné l'année dernière. Pomme et Suzanne, qui concourent aux côtés d'Aya Nakamura pour être l'artiste féminine de l'année. Enfin, dernière nouveauté, un prix d'honneur dont il ne peut y avoir qu'un gagnant. Le titre le plus streamé qui revient cette année au duo de rappeurs Gradur et Eus l'Enfoiré appelé Ne reviens pas.
Et on suivra ça donc le 12 février, Angèle Châtelier.
La folie dans le studio, n'est-ce pas, Nissa?
Ouais, ça a été le tube de l'été, ça.
Bah oui, bien sûr, quand on a des enfants en plus, on a ça dans les oreilles.
Ça,
merci Isabelle, on vous retrouve demain à partir de 18h.